Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver parce que j'ai adoré le livre dont nous allons parler. L'auteur aussi est très agréable, vous verrez, c'est une personne qui inspire le rêve aussi et la douceur. Ce roman, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il nous balade entre rêve et réalité, entre fiction et réalité, entre la vie et la vraie vie. C'est un livre d'aujourd'hui, c'est un livre de notre temps, mais avec beaucoup de tendresse, avec aussi beaucoup de questions. C'est une belle écriture et c'est une belle découverte. Bonjour Camille de Peretti.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre roman Les rêveurs définitifs aux éditions Kalman Lévy. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de vous. Vous avez obtenu, je crois, le prix du roman à Chambéry. Vous avez écrit 7 romans. Que pouvons-nous dire d'autre sur Camille de Peretti?
Que Les rêveurs définitifs, c'est mon 8e roman.
Oui.
Et que en fait, à chaque fois, mes romans semblent très différents les uns des autres, mais qu'ils participent tous d'un même projet, puisque j'essaye d'écrire un livre de chaque genre littéraire existant.
Oui.
Donc, c'est un projet que j'ai eu quand j'avais 18 ans. J'essaye de m'y tenir. L'idéal serait d'avoir 80 ans et d'avoir écrit en plus de ces 8-là, donc j'ai écrit pour le moment une autofiction, un roman historique, un roman ulipien, un roman épistolaire, un roman naturaliste, enfin toutes sortes de choses. Mmh. Là, Les rêveurs définitifs, c'est un roman surréaliste,
oui.
Mais il m'en reste encore pas mal. Il me reste un thriller, un roman policier, un roman science-fiction,
un roman poétique.
Oui, un recueil de poèmes, une pièce de théâtre, même un livre de cuisine. Enfin, si
pourquoi
pas, par tous les
pourquoi
gens,
pas.
Voilà.
Eh bien, écoutez, comme ça, de cette façon, ça nous donnera toujours l'occasion de vous retrouver, Camille de Peretti. Ce sera toujours une belle surprise. Alors, je disais, ce roman, Les rêveurs définitifs, moi, je l'ai beaucoup aimé à plusieurs titres, parce que d'abord, c'est une, je vous le disais, hors antenne, c'est un bel exercice de littérature, c'est une belle écriture, chic, déliée, élégante. Voilà, donc ça c'est mon sentiment, bien évidemment. Je suis sûre qu'il sera partagé par nos éditrices et auditeurs qui se donneront le plaisir et la joie de prendre ce livre. Alors, nous avons deux principaux héros. Il y a Emma, la maman, et son fils Quentin. Alors Emma, elle est traductrice. Fils Quentin a 14 ans. Et elle en a un petit peu marre de ce métier de traductrice. Elle en a un petit peu fait le tour. Elle voudrait faire un grand roman. Pas des romans de bluette. Hein, vraiment quelque chose de concret, quelque chose de fort et de grand. Et puis à côté, son fils, alors lui, il est sur les vidéos, il se prend pour un gamer de génie, tel que peuvent être les adolescents aujourd'hui. Et puis, dans ce monde, je dirais, dans leur monde qui semble un petit peu garé, tranquille, eh bien, ça va un petit peu voler en éclats parce que elle va obtenir une mission qui ne correspond pas vraiment à ce qu'elle souhaite. Et puis lui, de par ses jeux vidéo, va être content. Contacté par un groupe assez mystérieux. J'ai envie de dire qu'il y a à la fois le rêve et puis en même temps la force réalité d'aujourd'hui entre le désir de faire autre chose et puis pour ce jeune homme d'être un petit peu complètement sous l'emprise de ces jeux vidéo.
Oui, c'est vraiment l'idée du livre, elle est partie de là. C'est-à-dire que j'avais envie de parler de ce que j'appelle des traversées, c'est-à-dire ces pensées qui nous traversent l'esprit, qui ne font pas de nous des gens ni schizophrènes, ni fous, ni rien du tout. Mmh. C'est juste des petites secondes où on sort de notre vie vécue pour s'imaginer autre chose. Par exemple, qui ne s'est pas dit en passant devant un bureau de tabac où il y a une affiche « Le grand gagnant de l'euro-million a gagné 36 millions » quelque chose comme ça, qui ne s'est pas dit « Ah, et moi, qu'est-ce que je ferais avec 36 millions ?» De même, on a tous des moments comme ça où on se dit Oh, et si il m'arrivait un grand malheur et que je mourais, et on imagine notre enterrement, ou alors
C'est vrai.
On se dit au bout de la rue, il y a un homme qui va m'attendre et qui va tomber fou amoureux de moi, on ne sait pas trop pourquoi. Ça va être l'amour fou au premier regard. Après, j'ai demandé à plein d'amis quelles étaient leurs traversées. Et j'ai eu toutes sortes de réponses. Celle que je donne souvent, c'est mon mari qui m'a dit, bah, moi, en fait, à chaque fois que j'ai faire un footing, j'imagine que je suis un marathonien extraordinaire et que je gagne des records absolus d'endurance et de vitesse. Voilà, on a tous des choses comme ça, des petites vies qu'on mène en parallèle de la
c'est
nôtre.
Vrai.
Et ça, c'est quelque chose de très banal et qui est commun à tous les mortels depuis le début de l'humanité, je pense. Et puis, il y a cet autre aspect du monde, alors pas irréel, mais du monde virtuel, avec aujourd'hui les jeux vidéo, les avatars et tout ça. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de confronter une rêveuse traditionnelle d'une certaine manière, qui est la maman, Emma,
ouais.
avec son fils qui vit, et vraiment dans un monde virtuel où là, ses rêves sont projetés dans quelque chose de presque concret, quoi, parce qu'il a une manette au bout des doigts et qu'il est capable de faire avancer un avatar, de le faire sauter, de le faire bondir.
Tout à fait.
Et puis, en fait, c'était aussi par rapport aux réseaux sociaux, parce que
oui.
cette interrogation, en fait, elle peut aller un petit peu plus loin avec nos vies sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une forme de rêve qu'on se projette. En fait, les gens sont capables de faire croire aux autres qu'ils ont une vie rêvée. C'est-à-dire que personne n'a ne réussit ses plats parfaitement, personne n'a des enfants nickel qui sont pas en train de froisser leurs vêtements ou de baver leur chocolat. Voilà, mais toutes ces photos qu'on poste de nous-mêmes en permanence, qui sont filtrées d'ailleurs, hein, c'est pas un hasard, elles sont filtrées, elles sont trafiquées. Et on regarde la vie des autres, on se dit, ils ont tous une vie de rêve, sauf moi, bizarrement. Et puis en fait, ces vies rêvées, elles ont une réalité, et c'est très dangereux tout ça. Donc voilà, donc c'était mélangé la vraie vie, la fausse vie, la vie rêvée, la vie imaginée, la vie filtrée, enfin,
tout
ça dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, ce que vous expliquez par rapport aux réseaux sociaux, c'est une forme de mythomanie?
Bah, je ne sais pas exactement si c'est une forme de mythomanie. Je pense que ça nous aide aussi à supporter notre vie. C'est une meilleure image de nous-mêmes.
Oui,
en fait.
Bien sûr.
Vous
c'est
voyez
sûr.
Je ne
crois
pas que ce soit un vrai mensonge. Je ne sais pas, je vais mentir en gens en leur montrant mon plat de lasagne. Mais peut-être qu'on ne va que leur montrer le plat de lasagne qu'on a réussi et pas tout le reste. C'est ça. Vous voyez
C'est aussi
une triche qui me tient mensonge, je crois.
Oui. Alors, c'est aussi ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est le lien entre la mère et le fils. C'est-à-dire que bah, ils vivent ensemble, hein, ils s'entendent bien, c'est très fort. L'un dans une certaine rêverie, l'autre dans la réalité. Et ce parallèle est intéressant parce que malgré tout, ils arrivent quand même à communiquer chacun à leur façon, mais ils arrivent quand même à se dire des choses.
Oui, en fait, je voulais vraiment pas tomber dans le stéréotype de l'adolescent, comme on voit souvent, vraiment le gamer qui ne sort pas de sa chambre, qui est tout pâle, qui est collé à ses écrans et tout. Je voulais un enfant plus normal, c'est-à-dire un enfant qui aime bien les jeux vidéo, qui passe pas mal de temps sur ses écrans, oui, mais c'est pas non plus un addict, voilà. Et de même que la mère et le fils ont des problèmes à communiquer parce
bien
que lui, le jeune, il est quand même vraiment dans sa bulle, et puis sa mère le saoule, et puis tout ça. On est quand même dans quelque chose d'assez classique.
Oui.
Mais je ne voulais pas non plus que ce soit le clash ou le deux mondes qui n'arrivaient vraiment pas à se comprendre, etc. Je voulais que ce soit vraiment, enfin, que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Et que je ne voulais pas aller dans des extrêmes. Je voulais aller dans quelque chose d'assez assez honnête et assez sincère.
C'est réussi. Alors, donc Emma, elle va se retrouver donc chargée d'une mission pour un groupe Kiwi, je crois, voilà. Alors c'est pas son rêve non plus, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle s'éloigne un petit peu de ses rêves, de cette transparence de vie. Bon, on ne va pas tout raconter, on va laisser le lecteur et la lectrice découvrir ça. Et puis de l'autre côté, avec ces jeux vidéo, le fils va se retrouver face à quelque chose d'assez mystérieux. Ça m'a fait penser à une forme, d'un côté, une forme de guerre intellectuelle, d'un côté, une forme de guerre un peu science-fiction, de l'autre, par le fils, avec deux univers qui vont s'affronter, chacun face à des difficultés, finalement, de grosses difficultés.
Oui, en fait, je voulais vraiment aborder les sujets de l'intelligence artificielle, du data, de tout ça, qui, moi, m'intéresse énormément. Mm-hmm. Et puis, parce que, en fait, en plus, j'ai eu la chance de travailler pour un grand groupe où on m'a fait découvrir, en fait, la pointe du logiciel de traduction. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, vous allez sur Google Translate, pour ne pas le nommer, si vous avez des phrases assez simples, sujet, verbe, complément, la machine va très bien traduire.
À peu près, à peu près. Oui.
Mais dès que ça part un petit peu dans des jeux de mots, des sous-textes, des phrases un peu plus longues et tout ça, la machine commence quand même un petit peu à s'embrouiller. Mmh. Et donc, moi, j'étais très sereine vis-à-vis de ça. Je me disais que l'être humain était irremplaçable et que, et surtout pour traduire de la littérature ou de la poésie, vous imaginez bien que les sangles longs des violons de l'automne, si vous traduisez ça littéralement en croate, ça va donner du blougi-blouga, quoi.
Bien sûr.
Donc, je me disais, ça va aller. Et puis, en fin de compte, les gens avec lesquels j'ai travaillé, qui sont vraiment à la pointe de la recherche en la matière, m'ont dit, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle comprend les assonances, elle comprend les allitérations, mmh. elle comprend les doubles sens, elle comprend les jeux de mots, elle comprend tout ça, et elle est capable de traduire de manière extrêmement sensible et fine, mmh. avec 0,3% d'erreur, des textes qui, effectivement, il y a encore 2-3 ans, semblaient des montagnes vraiment impossibles à
franchir.
Voilà, et ça, je me suis dit, oulala, mais c'est peut-être la fin de la littérature, cette histoire. Mmh. Parce que c'est vrai vous savez, il y a un logiciel déjà qui a créé un livre. Enfin, on est capable de fabriquer des livres parce qu'on explique à un robot ce que c'est qu'un personnage principal, ce que c'est qu'un personnage secondaire, une intrigue, un retournement de situation, du suspense et puis une fin heureuse, quoi. Mmh. Et il y a des livres qui sont écrits en 10 minutes par des logiciels et qui sont lus par des critiques littéraires qui disent que ça se tient, quoi. C'est pas de la très grande littérature, mais c'est pas de la si mauvaise littérature, donc ça fait vraiment peur, quoi. On se dit, oulala, où est-ce qu'on va? Et donc ça, moi, en tant que grande lectrice, grande littéraire, tout ça, ça me passionne.
Oui,
donc j'avais vraiment envie d'en parler dans le livre,
C'est bien. Alors, d'autant plus qu'Emma se pose la question. Elle se dit, mais alors, mon métier va servir à quoi? Traductrice, c'est quand même un beau métier parce qu'il y a des traducteurs dans le monde entier à différents niveaux. À l'ONU, enfin, dans toutes ces grandes assemblées internationales, on a besoin des traducteurs. Et Dieu sait si ce sont des métiers grandioses parce que un traducteur qui est polyglotte, qui parle 5, 6, 7 langues, moi, j'adorais parler chinois, japonais, russe, slovène. Vous voyez, je parle anglais et un peu espagnol, mais j'adorais. Donc, elle se pose cette question et en même temps, on se pose aussi la question de dire, mais alors, tous ces métiers qui vont être créés par l'intelligence artificielle et au détriment de l'humain. Donc, c'est très important qu'au travers d'Emma, finalement, on se pose aussi la question. Et moi, comment est-ce que je vois les choses? Donc, vous nous forcez à faire aussi cette démarche.
Eh ben, c'est gentil de me dire ça. C'est vraiment ce que je voulais. En fait, ce que je voudrais vraiment, c'est pas du tout donner des réponses d'abord parce que j'en ai aucune.
Bien sûr.
Mais vraiment que les gens lisant ce livre s'interrogent et se disent, ah ouais, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir comme ça? Mais j'ai pas de solution, mais j'ai des questions. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont soulevées dans le texte.
Oui. Alors il y a aussi, bien sûr, son fils, on le disait, qui est un fol dingue de vidéos. Vous en parlez très bien, c'est très bien décrit, parce que il y a une forme d'angoisse qui monte. On l'imagine complètement absorbé par ça. Et puis à côté, c'est ces personnes mystérieuses qui vont un petit peu. Alors moi, j'ai ce mystère. Enfin, ces gens qui vont vouloir s'accaparer un certain nombre de choses. Vous savez, ça m'a fait penser à des pieuvres avec des bras multiples et avec des visages terrifiants. Vous voyez un petit peu les images que j'ai eues en lisant votre livre.
D'accord. Je voulais qu'il y ait du suspense.
Oui.
Après, je vous avoue que moi, je suis très, très étrangère au monde des jeux vidéo.
Oui.
C'est pas du tout mon truc.
Bienvenue au club.
Je me suis dit, mais comment vais-je faire pour décrire rien qu'un jeu, quoi? Enfin, je sais même pas, j'ai jamais eu de manette entre les mains. Et j'ai rencontré beaucoup de gamers, des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes étant souvent plus pédagogues avec moi en me disant, oui, je vais vous expliquer comment le B.A.B.A. Et puis aussi, j'ai beaucoup, beaucoup passé de temps à regarder des gens jouer en ligne. Vous allez sur des plateformes YouTube où il y a des millions d'internautes connectés en même temps pour regarder un gars qui dégomme des elfes, quoi. C'est étonnant. Enfin, j'ai beaucoup regardé ça pour m'immerger dans le truc. Et c'est vrai que à la fin, alors je ne dis pas du tout que j'avais envie de jouer parce que ce n'était vraiment pas mon monde, ouais. mais j'étais quand même tout à fait fascinée. J'ai découvert des choses très intéressantes dans ces jeux-là.
Ben, je vous avoue que grâce à vous, moi j'ai découvert le mot gamer. Hein.
Ah bon?
Voilà. Alors, je n'ai pas interrogé les gens autour de moi, mais je le ferai. J'ai même pas posé la question à mon mari, est-ce qu'il connaît le mot gamer? Il va certainement lever les yeux au ciel parce que c'est pas du tout non plus son truc. Mais bon, je poserai la question aux plus jeunes autour de moi. On verra ça. Eh bien, en attendant, on va faire une petite pause musicale. Ce ne sera pas du gamer, mais ce sera, j'espère, une petite pause relaxante. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Camille de Peretti pour son dernier roman, Les rêveurs définitifs, aux éditions Calman Levy. Alors justement, ce titre, il m'a interpellée. J'ai lu à deux, trois reprises quand je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire le livre de Camille de Peretti, je vais aller à sa rencontre au travers de ce roman. J'ai lu à deux, trois reprises, je me dis, est-ce que je lis bien Les rêveurs définitifs? Pourquoi le choix de ce titre? C'est un... comment dire, on peut être
alors,
rêveur à vie, rêveur indécrottable. Expliquez-nous ça.
En fait, c'est une citation d'André Breton.
Donc, d'accord.
Déjà, voilà. Moi, j'ai un historique catastrophique avec les titres de mes livres.
Oui.
Sur les 8 livres, sur mes 8 romans, il n'y en a qu'un seul où j'ai choisi moi-même le titre. Autant vous dire que
d'accord.
À chaque fois, je propose des titres à mon éditeur qui me dit « Ah non, non, c'est très mauvais comme titre, ça n'ira pas ». Donc, celui-ci, Les rêveurs définitifs, j'aurais voulu l'appeler Les traversées pour raconter justement ces moments où on est.
Ça aurait été très bien. Ça aurait été bien, oui.
Et puis, l'éditeur m'a dit, mais non, il y a déjà 12 livres qui s'appellent Les traversées.
Ah oui, d'accord.
Vous pouvez pas, c'est pas assez original. Et ça, je dis, bon, très bien. Et il m'a dit, mais l'exergue, donc c'est une citation d'André Breton, puisque le livre est un livre surréaliste.
Oui.
Qui appartient au code surréaliste, dit, je suis en train de lire au moment où je vous parle, l'esprit de l'homme qui rêve se satisfait pleinement de ce qui lui arrive. L'angoissante question de la possibilité ne se pose plus. Mm-hmm. Et après, André Breton dit que tous les hommes sont des rêveurs définitifs. Mm-hmm. Et ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est que, effectivement, celui qui rêve, il n'a pas besoin d'agir. Il n'a pas besoin de faire ce qu'il dit. Rêver, c'est gratuit. C'est pour soi. C'est personnel. Nos rêves, on les garde pour nous. Et puis, on ne se met pas en danger quand on rêve. Mmh. Alors, donc, l'angoissante question de la possibilité, est-ce que ça va être possible ou pas, ne se pose pas du tout.
Mmh.
Alors que si on décide de rentrer dans l'action, là, tout devient dangereux. Et là, on se dit, ah, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Et on est plein d'angoisse. Donc, les rêveurs définitifs, c'est ceux qui, justement, préfèrent rêver définitivement, en fait. Ils rêvent. Mmh. Et comme ça, ça les définit et ils se mettent un peu en retrait du monde.
Oui, en retrait, mais en même temps, je pense que ça les aide à avancer aussi, c'est-à-dire un pas après l'autre. Vous voyez, parce qu'ils se créent des objectifs de rêverie, ils sont dans leur monde, mais en même temps, pas à pas, ça leur permet d'aller au bout des choses et d'avancer aussi. Je pense que c'est un moteur puissant.
Ça. Ça peut l'être aussi, et on peut vraiment l'entendre aussi, comme vous le dites.
Oui. Alors, il y a aussi du suspense, hein, puisque y a des méchants qui vont vouloir faire un tas de choses pas très catholiques. Moi, ce que j'ai aimé dans ce surréalisme, c'est que le suspense l'est aussi, c'est-à-dire qu'il y a une montée comme ça en puissance d'angoisse, de questions. Et alors, tout est tellement bien ficelé, c'est-à-dire la traductrice donc, qui a fait le tour des choses et finalement, sa mission, bon, ça ne va pas tellement lui plaire, elle se pose des questions sur son avenir et l'avenir de son métier. D'un côté, donc, elle a son fils qui est complètement parasité par les vidéos. Et puis, il y a ce suspense. Et tout s'embrique bien dans les uns dans les autres. Et ce suspense devient aussi surréaliste. Mais en même temps, on frissonne aussi.
Ah, c'était vraiment ce que je voulais faire. Voilà. En fait, vous savez, c'est Stephen King qui dit que sans notre lecteur, nous ne sommes qu'une voix qui couine dans le vide.
C'est vrai.
Et en fait, un livre, le premier but de l'écrivain, c'est vraiment que le lecteur tourne la page. Donc, si le lecteur il tourne la page et qu'il va jusqu'au bout de notre livre, déjà, on a gagné quelque chose. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait une intrigue forte et qu'on se dise oui. Oh, mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces deux-là, c'était très, très important pour moi. Donc, oui.
Vous savez, il y a une phrase de Réclit que j'aime beaucoup et j'y ai pensé. Elle m'est revenue à l'esprit en lisant votre livre qui disait qu'il n'y a qu'une chose de constant. C'est le changement.
Oui. Oui, c'est bien. C'est exactement ça.
Et dans le livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en constante mutation des deux personnages. Alors, ils sont en parallèle, chacun dans sa mutation, chacun dans son questionnement, mais en même temps, des rêveurs définitifs dans leur propre domaine, mais ça les aide aussi. Ça les aide profondément.
Ça les aide et c'est un petit peu marcher aussi sur un fil, quoi. Et puis, je voulais aussi que le lecteur soit par moments un petit peu perdu en se disant, mais attendez, là, c'est, c'est ce qu'elle est vraiment, c'est ce qu'elle vit vraiment, ou c'est ce qu'elle est en train de se rêver d'être. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait des glissements comme ça, et c'était pour que ce soit fluide dans l'écriture, et que pour piéger un peu mon lecteur, en fait, qu'il dise, non mais attends, là, en fait, c'est pas ce qu'il arrive, c'est ce qu'il est en train de s'imaginer.
Oui.
C'était vraiment très difficile de... Enfin, il fallait que ce soit... fallait pas que ce soit les pieds dans le plat, fallait pas que je dise « Emma s'imagine que machin », parce que sinon c'était raté. Et en même temps, si je le rendais trop réel, les gens disaient « Non, mais là, je comprends plus ce qui passe, quoi. » Donc, c'était vraiment... On a beaucoup travaillé avec l'éditrice pour que ça se passe bien pour le lecteur, mais qu'on flotte un petit peu, qu'il y ait un sentiment de flottement.
Oui. Je me suis dit aussi à plusieurs reprises en lisant, j'allais vous dire en écoutant Emma, vous voyez, c'est comme si elle me parlait tout au long du livre, mais en lisant Emma, je me suis dit, mais alors, allez, elle va s'inspirer de tout ça, de ce qui lui arrive pour écrire ce grand roman. Finalement, elle va en tirer les cordes, les ficelles, elle va en tirer la substantifique moelle pour finalement faire ce roman. Je veux dire, elle va se nourrir de ça aussi.
Ben, ce que j'explique quand même dans le livre, c'est que Emma, c'est quelqu'un de profondément humble.
Oui.
Et donc, elle est trop humble pour écrire un roman. Il faut être sacrément narcissique et prétentieux pour écrire des romans. Je sais de quoi je parle. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même quelque chose de très démesuré à infliger aux autres, de passer des heures à lire ce qu'on a décidé d'écrire. Et voilà. Et mon Emma,
c'est intéressant. C'est très intéressant, ça. Ce que vous dites là.
Mon Emma. Je l'aime, mon Emma. Vous savez, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée.
Oui.
Et elle n'est pas assez prétentieuse pour être romancière.
Est-ce que. Alors, sans doute qu'on vous a déjà posé la question et j'enfonce certainement une porte ouverte. Est-ce qu'il y a du Camille chez Emma?
Bien sûr.
Ben oui.
Par exemple, moi, j'ai traduit des livres.
Oui,
Donc, l'expérience de traduction, c'est la mienne. J'ai des enfants. J'ai des moments de grand doute où les bras, je baisse les bras et je me dis, mais mon Dieu, qui sont ces êtres qui sont sortis de mon ventre et que je ne comprends pas. Voilà. Donc, évidemment, il y a de ça. Et puis, il y a toujours de nous dans un roman.
Bien sûr.
Qu'on parle de...
Bien sûr.
Moi, c'est toujours un exemple que je donne. J'ai écrit mon premier livre, ça s'appelait Ternitorin, c'est parlé d'une jeune fille qui s'appelait Camille, qui était en école de commerce et qui était boulimique anorexique. Et c'est clairement mon histoire. Je m'appelle Camille, j'ai été en école de commerce et j'ai été boulimique anorexique. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Blonde à forte poitrine et qui parle d'une prostituée au Texas. Et je vous jure que je n'ai jamais été prostituée au Texas. Que je ne suis pas du tout blonde et je n'ai pas du tout une forte poitrine. Donc, voilà. Et pourtant, je suis autant la blonde qui danse dans les strip clubs lorsque je tiens le crayon, que je ne suis pas la Camille qui est un personnage de roman. Enfin, je veux dire, un roman, c'est des chapitres, c'est des retournements, c'est des fils conducteurs, c'est des systèmes de narration, c'est de la grammaire, c'est de la conjugaison. On n'est pas ça, nous. Vous voyez ? Donc, on est à la fois toujours notre personnage et nos personnages.
Bien sûr.
Je suis à la fois Emma et à la fois Quentin. Et à la fois la grand-mère, c'est moi aussi dans le livre.
Oui, aussi.
Tous les personnages. Et en même temps, ce ne sont que des personnages.
Oui, ce ne sont que des personnages. Je suppose aussi que Camille, tout comme Emma, même Quentin, la grand-mère et tous les personnages, ils ont tous des traversées.
Ah ben oui.
Bien sûr.
Là où c'est sympa, c'est que tout mon entourage qui m'a aidée, quand je disais, alors toi, c'est quoi tes traversées, ça, ils se retrouvent tous, alors ils disent, ah, donc tu m'as collée dans les traversées de la grand-mère. Mais voilà, comme ça, c'est sûr que je m'aide aussi beaucoup de ce que j'observe autour de moi.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que quand on construit un personnage comme Emma, parce que beaucoup de choses tournent autour d'elle, bien sûr, il y a son fils, mais Emma, c'est l'élément fort, c'est l'électron, mais alors j'ai envie de dire l'électron central, mais un électron libre aussi, finalement.
Ah oui. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Elle est libre, quoi. Et c'est ça participe d'une sorte de... Ouais, je ne saurais pas le dire mieux que vous, en fait.
C'est un électron avec cette forme de liberté toute simple. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas à cette liberté, elle la vit.
Oui. Elle est libre et vulnérable à la fois.
Oui. Oui, mais ça, c'est le propre, je dirais, c'est le propre des gens libres. Parce qu'à partir du moment où on est attaché à cette liberté, on la vit, non pas qu'on la subit, mais on la vit, on ne la choisit pas parce qu'elle s'impose à nous et qu'on est liberté, on respire cette liberté, on est forcément vulnérable. Parce qu'à tout moment, on peut nous l'enlever, mais c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Enfin, je dis nous, mais voilà. Mais je dis nous parce que j'espère que ce sera le propre de beaucoup d'auditeurs et surtout, je pense, d'auditrices. Moi, j'ai du aimant en moi ou alors elle a du. Voilà, l'un ou l'autre, quoi. Voilà, il y a une.
Ouais, mais c'est vraiment les retours que j'ai depuis que le livre est sorti. J'avoue que c'est pas mal d'électrices, effectivement.
Oui.
Mais qui me disent, je me suis vraiment reconnue dans cette femme et pourtant. Je ne suis pas mère célibataire ou je n'ai pas d'adolescent chez moi ou je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je me suis sentie très proche d'elle. Je pense que c'est une héroïne très actuelle.
Oui, oui, oui.
Une femme d'aujourd'hui.
Tout voilà. À fait, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien parler du passé, du présent et de toute façon, tout est lié et du futur. On vous retrouvera pour un prochain roman, je suppose, Camille de Peretti.
Ah ben, j'ai bien l'intention d'en écrire encore une petite trentaine.
Avec plaisir.
Si mes lecteurs me suivent.
Il n'y a pas de problème.
Et oui, je suis déjà en train d'écrire le prochain.
D'accord. Eh ben, écoutez, sachez que vous êtes une éternelle invitée à ce micro de C2L pour délivrer
Merci
vous.
Beaucoup.
En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous lire, de vous entendre, de faire votre connaissance, de vous parler. Voilà. Vous êtes partie de ces auteurs qui dorénavant me seront chers. Voilà. Ah. Les rêveurs définitifs aux éditions Kalman Levy. Je vous remercie infiniment de ce bel entretien, de cette belle discussion. Et puis, je vous souhaite bon vent et je vous dis à une prochaine fois avec grand plaisir.
Merci, au revoir.
Merci.
C'est un plaisir pour moi aussi.
Merci, au revoir Camille. Quant à nous, nous nous retrouvons une prochaine fois pour une nouvelle émission de Délivrez-vous. À bientôt.